Vous êtes sur Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal. Isabelle Millet.
Nous avons noté avec satisfaction, même si la vigilance reste de mise, que le Premier ministre avait décidé de reporter la réforme de l'assurance chômage.
La satisfaction des syndicats, donc, et notamment de la CGT. Visiblement, la méthode Castex a plus de succès que la méthode Philippe. La réforme des retraites et celle de l'assurance chômage sont reportées à l'an prochain. À Bruxelles, la nuit s'annonce longue et studieuse pour les 27. Toujours pas de feu vert au plan de relance européenne, à peine un feu orange. Le mea culpa du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, critiqué depuis sa nomination pour avoir parfois prononcé des propos jugés sexistes.
J'ai eu un langage fleuri, je peux plaider coupable. Je n'ai jamais eu de langage sexiste.
Deuxième grand week-end de départ en vacances et ce message martelé par les autorités face à la recrudescence du virus. Même en vacances, on n'oublie pas le masque. Personne n'a envie d'une résurgence de l'épidémie.
C'est vrai, c'est une contrainte, mais c'est des vacances quand même.
On prendra également dans ce journal des nouvelles de nos bacheliers et de Parcoursup qui proposent parfois du droit à celui ou à celle qui rêvait de langues étrangères. Et puis retrouvailles en fanfare pour le PSG et ses supporters ce soir au Parc des Princes. La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,31% à 5069 points. Bonne nouvelle, l'été sera de retour demain et tout le week-end. Grand beau temps, à l'exception tout de même de l'extrême sud-est, le Var et la Côte d'Azur où l'on attend de la pluie. Les températures remontent, on va enfin retrouver des valeurs de saison. Ne manquez pas surtout les prévisions d'été d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis vous aimez lire, ça tombe bien, nous aussi. Après le journal, on partira à Bordeaux avec Stéphane Place et les bons conseils lecture de la librairie Mola pour cet été.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Lors de son discours de politique générale en début de semaine, il avait mis en avant l'importance du dialogue social. Jean Castex a reçu aujourd'hui les syndicats à Matignon. Changement de ton très net par rapport à la méthode Philippe. Le Premier ministre décide de se donner du temps pour traiter les sujets qui fâchent.
La réforme de l'assurance chômage est une bonne réforme et nous la mènerons à terme. Mais nous avons, parce que nous sommes pragmatiques, décidé de l'adapter aux circonstances présentes et donc d'en décaler la date d'entrée en vigueur. De la même façon, l'instauration d'un nouveau régime de retraite universel sera maintenue. Simplement, nous lui appliquerons une nouvelle méthode, d'abord en distinguant très clairement le caractère structurel de cette réforme qui vise à plus de justice de tous ces éléments financiers, en reprenant la concertation dans les mois à venir pour en améliorer le contenu et la lisibilité par nos concitoyens. C'est une affaire extrêmement importante.
Olivier Samin, vous étiez à Matignon aujourd'hui. Deux annonces essentielles ont donc été faites à l'occasion de cette rencontre, de ce rendez-vous. Elles concernent les deux réformes les plus contestées du moment, la retraite et l'assurance chômage.
Oui, alors sur les retraites, vous l'avez entendu, Jean Castex se propose de donner du temps à tout le monde. Le sujet viendra sur la table, oui, mais plutôt en 2021, en distinguant très clairement la réforme systémique, l'instauration du système universel, de la question des équilibres financiers. L'autre grosse annonce, c'est donc le report de la réforme de l'assurance chômage au 1er janvier 2021. Report de toute la réforme. Autrement dit, aussi bien les mesures entrées en vigueur le 1er novembre dernier, qui durcissaient les conditions d'accès à l'indemnisation des chômeurs, que celles qui devaient s'appliquer le 1er septembre prochain, qui allaient pénaliser les travailleurs précaires. Tout est donc suspendu et une concertation va s'engager sur le sujet avec les partenaires sociaux.
Olivier Samin du service éco d'Europe 1, et c'est assez rare pour le signaler. À leur sortie de ce rendez-vous à Matignon, tous les partenaires sociaux avaient plutôt le sourire, avec quelques bémols pour certains. Écoutez le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux.
Moi, je retiens le fait que la priorité, c'est le plan de relance, c'est l'économie, c'est l'emploi, et que les autres sujets passe après, c'est-à-dire que la meilleure façon de préserver l'emploi, c'est bien de maintenir l'économie à flot. Ensuite, il y a ce que j'ai envie d'appeler un peu les 12 travaux d'Hercule, puisque le Premier ministre a listé un nombre très important de sujets à traiter presque tous avant la fin de l'année. Je ne sais pas si on va y arriver. Probablement, il faudra essayer de se faire un calendrier du possible, et pas simplement un calendrier de tout ce qui est souhaitable.
Voilà pour le patron du MEDEF, réaction un peu plus prudente du côté des syndicats, en particulier de la CGT, son secrétaire général Philippe Martinez.
Nous avons noté avec satisfaction, même si la réserve, enfin en tout cas la vigilance reste de mise, que le Premier ministre avait décidé de reporter d'annuler les mesures concernant la réforme de l'assurance chômage, celles qui devaient entrer en vigueur au 1er septembre et celles qui sont en application depuis déjà l'année dernière. Et évidemment, puisque nous avions déjà formulé un certain nombre de propositions, nous sommes disponibles, en tout cas nous le ferons, pour améliorer cette assurance chômage.
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT avec Olivier Samin. Lors de son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron avait laissé entendre que la dernière étape de la suppression de la taxe d'habitation prévue en 2023 pour les 20% des ménages les plus aisés pourrait être reportée. Eh bien, le Premier ministre écarte ce soir cette hypothèse. Nous ne pensons pas que le recours à l'arme fiscale soit un bon outil pour gérer la crise, dit-il chez nos confrères de France 2. Jean Castex, qui après ses discussions avec les partenaires sociaux, s'est rendu aujourd'hui dans un centre du Secours populaire dans le Val d'Oise pour échanger avec les responsables, les bénévoles, les bénéficiaires, les associations qui distribuent l'aide alimentaire, témoignent d'une augmentation de 40% de la fréquentation depuis la crise du Covid-19. À Bruxelles, les discussions pourraient durer une bonne partie de la nuit. Les 27 tentent toujours de s'entendre sur le plan de relance de l'après-Covid, 750 milliards d'euros. Plusieurs pays, on le sait, sont réticents à l'idée de mutualiser la dette européenne. Comme prévu, l'accouchement s'annonce long et difficile. Les discussions ont repris ce soir juste après le dîner. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, réagit pour la première fois aux accusations de sexisme relayées par les féministes depuis sa nomination au gouvernement. Féministes qui pointent également son collègue de l'Intérieur, Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol. En visite aujourd'hui au nouveau palais de justice de Paris, le ministre de la Justice a brièvement retrouvé ses accents d'avocat pour plaider sa propre défense.
J'ai eu un langage fleuri, je peux plaider coupable. C'était dans d'autres fonctions, je n'ai jamais eu de langage sexiste. Et d'ailleurs, si vous reprenez mes déclarations, j'ai toujours prôné une totale égalité des droits. Reprenez-les, au lieu de les prendre avec parcimonie, de les commenter, reprenez tout ce que j'ai dit depuis des années. Je n'ai pas à rougir de ce que j'ai pensé sur ces questions. Ben voyez, monsieur, il y a une toute petite règle dans notre République, une petite bricole qui s'appelle la Constitution, et qui rappelle qu'un homme, tant qu'il n'a pas été définitivement condamné, est présumé innocent. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour vous aussi, c'est vrai pour moi, et ça nous protège tous.
La mise au point d'Éric Dupond-Moretti cet après-midi. Ce soir sur France 2, Jean Castex a été interrogé justement sur la nomination de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur. Et comme Emmanuel Macron, il a rappelé que le principe de la présomption d'innocence s'appliquait à tous les citoyens. Je respecte toutes les opinions, a-t-il dit. Je comprends tous les émois, c'est un sujet qui me touche beaucoup.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h07, merci à vous d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal et c'est le deuxième grand week-end de chassé-croisée de l'été. Il y a du monde ce soir, hein, dans les gares et sur les routes. Ce sera pareil, voire pire demain, puisque la journée est classée rouge sur l'ensemble du pays dans le sens des départs. Des vacances qui coïncident, vous le savez, avec une résurgence de l'épidémie. De quoi s'inquiéter en cette mi-juillet. Il y a en tout cas des signaux préoccupants dans plusieurs régions, on vous en parle depuis plusieurs jours. En Bretagne notamment, les données ont subitement bondi, peut-être avec l'effet vacances justement et les déplacements de population. Du coup, les messages de prévention se multiplient. Ne surtout pas relâcher les comportements, même à la plage, même à la terrasse d'un café et même sur les aires de repos des autoroutes comme celle du Grand Ouest où vous avez passé cette journée, Charles Guyard.
Oui, et dans certaines familles, on a même parfois dû briefer les enfants, notamment avant de visiter les grands-parents hein, qu'on a souvent plus revus depuis plusieurs mois. Julie, 9 ans, sait du coup comment elle devra se comporter.
De ne pas leur faire des câlins dès le début, attendre un petit peu de jour avant de leur faire des bisous.
Contact à limiter, masque sur le visage et distanciation sociale, les mesures barrières, on le sait, sont devenues un langage universel. Anna arrive de Londres, elle s'apprête à les appliquer à Jarre-sur-Mer, en Vendée.
Il y a aussi le Covid en Angleterre. Et je pense que c'est possible d'aller en vacances avec les face masks, les distancing entre les personnes.
Et elle n'a pas hésité, dit-elle, à traverser la Manche, hein, surtout qu'au bout du voyage, c'est la famille qu'elle retrouvera.
C'est rassurant d'être avec la famille en France.
Rassurant aussi la destination. Alain et son épouse font route vers la Tranche-sur-Mer, également en Vendée, et le département a été plutôt ménagé par le coronavirus.
Ça semble épargné pour l'instant. Oui, 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 c'est vrai, oui. C'est rassurant, là, oui, bien sûr.
Malgré cela, le couple n'a pas oublié de glisser plusieurs masques dans les valises.
C'est vrai, c'est une contrainte, mais c'est des vacances quand même.
Des vacances particulières qui, pour tous, sonnent toutefois comme une vraie bouffée d'oxygène, et ce, malgré le masque, justement.
Le reportage de Charles Guyard pour Europe 1. Notez que l'application Stop Covid a été téléchargée 2 300 000 fois depuis son lancement, c'est très peu. Pour qu'elle soit efficace, les experts estiment qu'il faudrait que 20% de la population la télécharge. L'épidémie qui repart en Espagne, les habitants de Barcelone sont invités à se reconfiner après une hausse des contaminations. 9 500 lycéens attendent toujours de savoir ce qu'ils feront à la la rentrée. Ce sont les recalés de Parcoursup. 88% des bacheliers ont en effet reçu une réponse positive. Mais dans cette année de réussite record au bac, il faut caser tout le monde dans les universités. Et ça n'est pas très simple. Et même en cas de réponse positive, ça n'est pas toujours celle escomptée. Pour certains, la situation est même assez angoissante. Yasmina Katou.
Oui, imaginez qu'on vous impose de faire une licence de droit alors que vous êtes plutôt branché langues étrangères. C'est un peu ce qui est arrivé à Inès. Bonne élève, bachelière mention bien. Elle aurait voulu faire une double licence, sciences de la vie et ingénieur à la fac de La Rochelle. Mais Parcoursup en a décidé autrement.
J'ai dû être obligée, contrainte à m'inscrire à Poitiers alors que ce n'était pas vraiment l'endroit où je voulais aller, que ce soit par la ville ou par la formation en elle-même, vous voyez. Mais du coup, j'étais obligée de m'inscrire, sinon je perdais le vœu. Mais j'étais toujours en liste d'attente à La Rochelle. Il me restait vraiment que 5 places pour pouvoir avoir la formation. Mais voilà, mes vœux ont été archivés. J'étais contrainte de m'inscrire à Poitiers.
Inès a donc quand même été admise, mais d'autres sont tout simplement refusés partout. Certains élèves sont sur liste d'attente. Là, à part patienter tout l'été qu'une place se libère, il n'y a rien à faire. Au total, 9500 étudiants sont toujours dans le flou et les universités sont dépassées cette année à cause du taux record de réussite au bac. Presque 96% de bacheliers cette année qu'il va, tant bien que mal, falloir mettre sur les bancs d'université.
Précision signée Yasmina Katou. Les quatre personnes qui avaient été placées en garde a vu hier à Marseille dans l'enquête ouverte sur des procurations douteuses pour les municipales dans les quartiers nord. Ces quatre personnes sont toutes ressorties libres ce soir sans suite judiciaire. Le volailler doux, condamné par la cour administrative d'appel de Nantes, il va devoir rembourser 80 millions d'euros de subventions indues. Ces sommes ont été versées par l'Europe au titre des aides à l'exportation, mais depuis, les douanes se sont rendues compte que les poulets congelés envoyés au Moyen-Orient, que ces poulets étaient gorgés d'eau. À Perpignan, un jeune de 18 ans a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis, pour avoir volé mardi dernier une voiture avec le bébé qui se trouvait à l'intérieur. Véhicule qui était en vente et qu'il a prétexté vouloir essayer. Sauf qu'il s'est enfui donc sans se rendre compte que le fils du propriétaire, un petit garçon d'1 an, était installé à l'arrière. Il a finalement été arrêté à l'issue d'une longue course-poursuite. Circonstance aggravante, ce jeune homme n'avait pas le permis de conduire. La préfecture de la Moselle place le département en niveau d'alerte à la sécheresse, déclenchant des mesures de restriction des usages de l'eau. Il est interdit, entre autres, d'arroser les potagers, les pelouses, les espaces verts publics ou privés entre 11h et 18h, mais aussi de remplir les piscines privées et de laver son véhicule hors des stations professionnelles équipées d'un dispositif de recyclage de l'eau. Et puis, son truc en plume est entré dans la légende du music hall. Disparition aujourd'hui de Zizi Jeanmaire.
Mon truc en plume, plume des oiseaux, des animaux.
Zizi Jeanmaire, danseuse classique, chanteuse, comédienne, meneuse de revue, habitée par l'amour de la scène et des projecteurs. Une carrière étroitement liée à celle du chorégraphe Roland Petit, dont elle fut l'épouse. Elle est décédée donc à 96 ans. Elle incarnait la femme libre des années 50 avec ses cheveux courts et ses longues jambes fuselées. Une personnalité interviewée sur Europe 1, notamment par Jacques Paoli, c'était en 1969.
Avec nous, Zizi Jeanmaire. Zizi Jeanmaire qui arrive de Londres, où elle vient de présenter son fameux show filmé avec Alain Delon. Zizi Jeanmaire, vous ne voulez pas, je crois, qu'on dise de vous que vous êtes une danseuse qui chante.
Non, c'est-à-dire que je veux que... Quand je chante, quand je danse, je danse.
C'est ça, vous n'êtes pas non plus une chanteuse qui danse. Donnez-moi un peu des nouvelles de ce truc en plume qu'une compagnie aérienne vous avait égaré.
Oh, je l'ai retrouvé, mon truc en plume, je l'ai retrouvé. Dieu merci, il était resté sur le trottoir, tout bonnement.
Oh, mon Dieu. Et on a tout de suite su...
On l'a retrouvé aux objets perdus.
Ah bon, tout simplement.
Beaucoup, beaucoup.
Zizi Jeanmaire sur Europe 1, c'était en 1969 avec Jacques Paoli. Et c'était ce soir le tout premier match de l'après-confinement pour le PSG sur son terrain du Parc des Princes. Match de préparation avant les deux finales de Coupe Nationale. Alors l'affiche n'était certes pas hyper prestigieuse. Paris affrontait les modestes Belges de Beveren. Mais pour les fans, c'était surtout le grand retour au Parc. Julien Froment, vous y étiez. Comment ça s'est passé, Julien ?
Eh bien écoutez, ça s'est plutôt bien passé pour le Paris Saint-Germain, Isabelle. Après le carton 9-0 contre le Havre, eh bien Paris poursuit sa préparation avec sérieux. Une nouvelle fois, un score sans appel, 7-0 pour les Parisiens. et le plein de confiance pour les attaquants. Neymar, Icardi, Mbappé et encore Choupo-Moting ont marqué ce soir. De quoi donner du baume au cœur aux supporters présents qui ont donné de la voix, sans toutefois vraiment respecter consciencieusement les mesures de distanciation sociale, alors que le Covid-19 frappe encore la France. C'est peut-être le seul bémol de cette soirée. Prochain match pour les hommes de Thomas Tuchel, mardi prochain, toujours au Parc des Princes, cette fois-ci contre les Écossais du Celtic Glasgow.
Julien Froment qui a donc suivi pour Europe 1 ce retour des Parisiens au Parc des Princes. Ça fait plaisir d'entendre de nouveau du foot sur Europe 1. On jette un œil tout de suite sur la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Et la météo, c'est avec vous, bien sûr, Anissa Haddadi. Pour demain, Anissa, bonne nouvelle. Journée chaude et ensoleillée.
Oui, ça y est, enfin, le temps change. Hein. Demain, dans la matinée, sur le quart nord-ouest, nous aurons de la Bretagne aux Hauts-de-France. Encore un ciel couvert avec des ondes très maritimes, surtout sur les côtes de la Manche. Mais je vous rassure, hein, ces nuages vont très vite se dissiper pour laisser place au soleil dans l'après-midi. En gros, pour vous résumer la situation de demain, il va faire beau sur toute la France. Le soleil brille sans aucun nuage dans le ciel. Mais attention tout de même, dans le sud-est, sur les Alpes-Maritimes et la Corse, là, le temps devient orageux. Ça craque demain avec des orages et de la pluie en relief, mais des pluies qui pourront toucher le Var et la Côte d'Azur demain dans l'après-midi. C'est surtout en montagne que ça va se concentrer, donc prudence hein, si vous nous écoutez en altitude. Au bord de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane soufflent toujours, mais beaucoup moins fort demain, seulement 50 km/h. Les températures demain matin sont stationnaires avec 11 à 22 degrés du nord au sud. Nous aurons 11 degrés à Bourg-en-Bresse, à Alençon et Clermont-Ferrand, 22 pour Nice dès le début de journée. Et puis dans l'après-midi, ça grimpe avec 20 à 25 degrés sur le nord-ouest. Enfin, on retrouve des couleurs estivales, 26 à 31 degrés sur l'ensemble du pays. Il fera 29 degrés à Paris et jusqu'à 34 degrés dans le sud, avec 34 à Nîmes par exemple.
La météo estivale signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, un livre pour l'été avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h17 et Europe 1, vous le savez, est associé à la prestigieuse librairie Mola à Bordeaux pour un troisième été de découvertes et de conseils de lecture. Très utile pour ceux d'entre vous qui sont en vacances et pour les autres aussi d'ailleurs. Ce soir, Stéphane Place, on aborde un sujet universel que nous côtoyons tous, malheureusement, un jour ou l'autre, la connerie.
Une trentaine de chercheurs, de savants éminents, d'historiens pour étudier un bien que nous avons tous, l'humanité dans son ensemble, en partage, la connerie. Entre elle et nous, 10 000 ans d'amour fou, rappelle la quatrième de couverture de ce livre. Chaque chapitre correspond au travail donc d'un contributeur, de la préhistoire de la connerie à la connerie au temps des pharaons, en passant par le 19e siècle, Eldorado de la connerie médicale. C'est évidemment une lecture amusante, mais pas seulement. Et c'est bien pour cela qu'Arnaud de Gaille, libraire chez Mola, vous invite à vous plonger dans cette histoire universelle de la connerie.
C'est absolument passionnant. Et ce qu'il faut quand même le dire, comme le titre le laisse entendre, c'est que c'est aussi traité avec une certaine forme d'humour, de légèreté, mais qui ne trahit jamais le sérieux du propos. C'est vraiment s'interroger sur, puisque c'est une notion qui est relative, bien sûr, qu'est-ce qu'être con au 1er siècle après Jésus-Christ, ou aujourd'hui, qu'est-ce qu'être con en Égypte antique. On peut être égoïste, ça nous arrive tous, mais persévérer dans son égoïsme, c'est là qu'on devient con. C'est drôle sans être drôle, c'est-à-dire que le ton est quand même empreint d'humour et de légèreté, le fond est sérieux. Et on se replonge dans les différentes époques, dans les différentes cultures. Ce qui est très drôle parfois, c'est ce contraste justement entre des propos très scientifiques et très sérieux et le sujet traité en fait.
C'est le psychologue Jean-François Marmion qui a réuni ses contributions et coordonné la rédaction de cet ouvrage.
On sent que plusieurs contributeurs sont tentés de situer les origines de la connerie au néolithique parce que c'est à ce moment-là qu'on assiste à une explosion de violence individuelle ou collective, d'inégalité. C'est là qu'on se met à travailler peut-être plus que c'était nécessaire. C'est là où on se met à stocker des denrées, des ressources. C'est là où on se met à confisquer. C'est là où des hiérarchies sociales se mettent en marche de façon inédite. Donc les ingrédients de la connerie étaient sans doute présents avant, mais au néolithique, quelque chose s'est cristallisé et s'est peut-être précipité. Mais évidemment, c'est qu'une théorie. On peut très bien considérer que la connerie était déjà là dès les primates, ou bien qu'elle est apparue avec des époques plus modernes, avec le libéralisme, diront certains. C'est une question de sensibilité politique aussi. D'un certain côté, on se dit qu'on n'a jamais été aussi con. On a toujours dit ça à toutes les époques, déjà dès l'Antiquité. l'Antiquité, les philosophes étaient désespérés parce qu'ils voyaient sous leurs yeux. Mais peut-être qu'on n'a jamais été aussi intelligent, on n'a jamais été aussi instruit. Si on le désire, tout le savoir du monde est à notre portée aussi facilement que la connerie grâce à Internet. C'est une question de choix personnel.
Et dès les premières pages, Jean-François Marmion explique la démarche. En un mot, disséquons les cons, écrit-il, s'empressant de préciser, mais avec doigté, et allons voir chez eux si j'y suis.
Je crois que c'est ma préférée, celle-là. La chronique de Stéphane Place avec la librairie Mola à Bordeaux, à retrouver tous les jours sur Europe 1. Rendez-vous pour une autre découverte, lundi même heure. Et vous pouvez aussi la retrouver, bien sûr, sur europe1.fr. Et puis, autre rendez-vous estival sur Europe 1, ça s'appelle La Bonne Idée. Et c'est tous les soirs avec vous, Thierry Dagiral. Nous tirons un coup de chapeau à une initiative, à ceux qui, après cette crise, se mobilisent et innovent.
Bonsoir Frédéric Drone.
Oui, bonsoir.
Nous sommes avec vous à Aix-les-Bains. Vous êtes concepteur de la borne distributeur de gel hydroalcoolique. Vous êtes aussi traiteur et vous avez eu l'idée d'utiliser des vieux skis pour en faire des bornes de distribution. C'est bien ça ?
C'est bien ça, et en effet. Alors, en fait, nous sommes deux associés de la source voisine, donc traiteur Locavore. Hein, ouais. Nous réalisons des buffets avec des produits locaux. Et donc, dans le cadre de la mise en place des règles sanitaires, eh bien, on a commencé une réflexion et la réalisation de cette borne. L'idée, c'était surtout...
De réutiliser tous les skis, c'est ça, même les bâtons, je crois.
Voilà, on utilise plusieurs éléments. Alors, ouais. Donc les deux paires de skis, on les met à la verticale, tout simplement. Et entre ces skis, eh bien, on va ajouter les éléments de défixation pour créer un mouvement du bas vers le haut.
D'accord.
Tout simplement.
Et il faut rappeler le chiffre, hein, dans le coin de Chambéry, ce sont 8000 skis qui terminent broyés chaque année. Donc vous les récupérez.
Exactement, voilà, tout à fait. On se rapproche des déchetteries et puis d'autres éléments de recyclage pour pouvoir récupérer ces skis. Et après, on les transmet à un centre d'insertion à Chambéry qui va faire la conceptualisation, hein, la production de ces bornes.
Et c'est une boîte du coin aussi qui produit le gel hydraulique, c'est ça ?
Exactement. On a fait appel à la société Fitema qui est installée à proximité d'Aix-les-Bains pour le gel société d'Oyonnax pour les bidons.
C'est ça l'économie circulaire. Hein. Donc vraiment un matériel recyclé 100% local. Bravo à vous, c'est une belle initiative. Merci beaucoup Frédéric Drone.
Merci encore.
Et la bonne idée, c'est tous les soirs sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Dans un instant, on jettera un œil ensemble sur les unes de la presse, mais on va d'abord marquer une petite pause musicale. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Les Français échapperont-ils aux hausses d'impôts, s'interroge Le Figaro. Le chef de l'État a réaffirmé le 14 juillet son refus d'une augmentation de la fiscalité, mais le gouvernement se montre confus sur la disparition annoncée de la taxe d'habitation. On vous en parlait tout à l'heure dans le journal. Retraite, chômage, emploi, ce que les réformes vont changer ou pas, c'est le titre du Parisien aujourd'hui en France, qui alerte par ailleurs sur le relâchement des comportements pendant les vacances. On en parlait également tout à l'heure, hein, avec une photo assez spectaculaire, assez inquiétante même, d'une plage de Carnac dans le Morbihan, bondée de monde, des serviettes et des parasols côte à côte. Laissons de côté les sujets qui fâchent pour ne pas que les retrouvailles post-remaniement tournent au vinaigre dès le premier tour de table, écrit Florence Chédotal dans le journal La Montagne. Les partenaires sociaux avaient tapé du pied très fort avant même de pousser la porte. Pour la paix des ménages et la sérénité dont la France a besoin pour avancer, les dossiers réforme des retraites et réforme de l'assurance chômage ont été classés sous la pile. Certains les croiront enterrés, ce sera le début d'un futur malentendu. Mais pour l'heure, il y a plus urgent à régler les dommages économiques. Mais un jour prochain, l'économie ayant ses lois propres, il faudra revenir au sujet qui fâche. C'est donc à lire dans le journal La Montagne. Il faut soutenir la génération Covid, titre pour sa part Ouest France. Avec la crise sanitaire, la situation est difficile, évidemment, pour les jeunes qui viennent de terminer leurs études supérieures et qui sont à la recherche de leur premier emploi. Pour les spécialistes des questions d'insertion des jeunes sur le marché du travail, les moins diplômés vont subir le chômage de plein fouet à la rentrée. Et puis les hyper sont-ils en bout de course, s'interroge ce soir Libération. Au-delà du moratoire annoncé par l'exécutif contre l'installation des grands centres commerciaux en périphérie, l'ancien modèle triomphant de la grande distribution s'essouffle. Il a du plomb dans l'aile à l'heure du e-commerce. Si cette annonce est passée un peu inaperçue, elle est pourtant révélatrice de cette ère du temps qui interroge notre mode de vie, nos habitudes de consommation, d'alimentation, l'aménagement des territoires, l'urbanisme des périphéries et notre capacité à protéger l'environnement. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie de Sana Blanger pour votre libre antenne. Bonsoir Sana.
Bonsoir Isabelle.
Le 39-21, toujours pour vous joindre.
Absolument.
Très belle soirée, très belle émission.
Merci, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.